Bonjour à chacun chacune. Je vous prie de prendre place, de vous asseoir. J'aimerais commencer par un bonne année, tous mes meilleurs vœux, que le Seigneur vous garde pour cette nouvelle année. Avant mercredi soir, mon texte pour cette introduction était prêt. J'avais voulu, pour marquer un peu le coup de ce premier culte de l'année, être un peu clivant. Mon texte touchait à des thèmes comme l'inclusivité, l'accueil radical, la justice sociale. Il avait pour objectif de faire réfléchir et de pousser à l'engagement. Et puis, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, le soir du Nouvel An, un drame est survenu dans la commune de Crans-Montana. Cet incendie m'a poussé à réécrire cette introduction. J'aimerais donc, dans le respect du deuil des personnes touchées, vous proposer quelques pistes de réflexion, après quoi nous aurons un temps de recueillement et de prière pour les victimes et leurs familles. Même si je me suis relativement isolé des différentes images et des informations concernant ce drame, j'ai ressenti, peut-être comme vous, des émotions relativement fortes et négatives, en majorité de la colère, de la frustration. Je me suis donc posé la question du pourquoi. Pourquoi ces émotions? Pourquoi toutes nos émotions que nous ressentons lors de tragédies pareilles? Alors, mon souhait ce dimanche, c'est pas de faire remonter des sensations désagréables, mais qu'on se pose ensemble, qu'on tente de procéder à une introspection. Personnellement, j'ai l'impression que la colère, ma colère en tout cas, elle prend sa source dans un sentiment particulier, celui de l'impuissance. L'idée de ne rien pouvoir faire pour des personnes en souffrance me met dans un profond énervement contre moi d'abord, contre la société, contre le contexte dans lequel je suis, et parfois contre Dieu. Et alors, que faire de tout ça? Que faire de toute cette colère? Que faire de nos émotions, d'une part, et que faire des sentiments préalables, comme l'impuissance, qui sont, entre autres, à la source de nos émotions? Je pense que dans ces contextes, toutes ces sensations, elles peuvent être un moteur. Une fois le deuil respecté, je pense qu'il est important que nous profitions de nos différents sentiments pour se positionner vis-à-vis des situations injustes, comme celle survenue à Crans-Montana. Alors, peu importe nos émotions, peu importe à quel sentiment, à quelle expérience préalable elles sont associées, je propose que nous profitions du prochain temps de recueillement et de prière et de ce début d'année pour penser aux situations injustes que nous avons l'habitude de voir. Et en nous remémorant ces situations, je vous propose que nous réfléchissions à comment, en tant que chrétiens, avec tout le bagage émotionnel dont je viens de parler, nous pouvons lutter. À comment nous pouvons nous engager contre ces injustices?
Merci Elliot. Bonjour à chacun, à chacune. Comme Elliot, je tiens à vous souhaiter, je le fais au nom du Conseil également, une belle nouvelle année. Empreinte de la grâce de Dieu, on en a besoin individuellement, collectivement. Que le Seigneur fasse reposer sa bonté sur chacun, sur chacune. Comme Elliot, j'avais commencé à préparer autre chose pour ce culte. Parce qu'avec le conseil, on a commencé à imaginer une thématique pour cette nouvelle année qui doit être encore un peu affinée. Et puis il me semblait que c'était le bon moment, premier culte de l'année, on y va, on lance les choses. Et puis les événements tragique, enfin la tragédie arrivée à Crans-Montana et qui nous cueille au petit matin du 1er janvier. Et puis, assez rapidement, en réfléchissant au format de ce culte avec Elliot, il nous a semblé légitime de reconfigurer les choses et puis de donner un espace au recueillement et à la prière. Cela d'autant plus que le président de la Confédération, Guy Parmelin, nous y a lui-même invité. Ce qui est étonnant, hein, dans un discours aujourd'hui qui veut mettre de la laïcité à tout prix. Moi, j'ai été touché d'entendre notre président, en conférence de presse, terminer en appelant au recueillement et à la prière. Et parfois, c'est tout ce qu'il nous reste. Parce que vous et moi sommes assez désemparés devant une telle situation. Et notre proposition, c'est donc de prendre un premier temps dans ce culte qui reprendra des couleurs peut-être un peu plus habituelles ensuite, mais de prendre un premier temps pour exprimer notre solidarité. Ça peut être fait très intérieurement, ça peut être exprimé par nos mots, même si nos mots sont pas à la hauteur ou nous semblent pas à la hauteur, c'est notre Dieu qu'on appelle à être à la hauteur. Et je vous propose que nous ayons un premier temps ce matin de recueillement et de prière. Je vous invite simplement à prier pour les victimes. Alors vous savez que dans la tradition protestante évangélique, nous ne prions pas pour les morts, mais nous prions pour celles et ceux qui sont impactés par un deuil. Ils sont nombreux. Quand on parle de 115 blessés, 120 blessés, la plupart très graves, plus de 40 morts, c'est des centaines de familles impactées, c'est des milliers d'amitiés impactées, c'est des vies fauchées, des projets, des envies, des idées, tout ça brutalement arrêté. Donc je vous propose de prier pour les victimes, pour les familles des victimes. Je vous invite à prier aussi pour les intervenants du terrain. Alors le gros du travail sur place, il est fait maintenant, mais il reste des enquêtes de police, l'implication de la justice. On peut penser ensemble aux intervenants du terrain en y associant particulièrement les soignants et les soignantes, que ce soit dans des hôpitaux ici en Suisse ou à l'étranger. Je vous invite à prier pour ces soignants et ces soignantes, à prier aussi ultimement pour que la justice passe. Parce que la restauration dans une situation comme celle-ci, elle passe par la justice aussi. Alors prenons peut-être un premier temps. Je sais que c'est un peu inhabituel dans notre format de culte, et en particulier, c'est le premier culte de l'année, on a envie de mettre de la joie normalement, et puis là, la joie, elle n'est pas naturelle. Donc je vous propose ce premier temps, n'hésitez pas à prier à haute voix, même si vous butez sur les mots, c'est pas grave. Nous avons un esprit qui lit dans nos cœurs et qui présente à Dieu, y compris nos soupirs inexprimables. Alors prenons un premier temps comme ça, et je conclurai ce temps, puis nous passerons à la suite du culte. Je vous invite à prier. J'invite Nathalie à poursuivre sa prière, si tu le souhaites.
Seigneur, nous avons confiance en toi. Console, Seigneur, Seigneur, qui sont tristes, Seigneur, qui pleurent. Amen.
Amen.
C'est une promesse que tu nous fais, que toute chose en son temps fleurit. Alors si aujourd'hui c'est le deuil, on peut croire que ça ne restera pas comme ça. Merci pour les magnifiques éléments de solidarité. Merci pour l'humanité et l'amour que les uns et les autres
Amen.
Des personnes qui te découvrent, qui viennent à toi et
te rencontre et que tu puisses aussi les visiter, les rencontrer, les consoler, leur donner un avenir et une espérance. Seigneur, quand on pense à tous ces jeunes qui ont une vie fauchée, ces familles dévastées, nous les apportons, Seigneur, à votre unité. Nous les présentons au trône de ta grâce. Mais Seigneur, j'aimerais aussi te prier pour ce couple de propriétaires qui semble avoir des responsabilités, qui maintenant vont être abandonnés par tous, qui ont certainement une culpabilité incroyable. Et Seigneur, je te demande que tu les visites eux aussi et qu'ils puissent te rencontrer. Je te le demande au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Témoin de ta lumière, de ton amour par rapport à ce drame dont nous parlons autour de nous. Et c'est vrai, comme le disait Sabine, nous croyons plus bien que nous en témoins. Alors c'est à toi, en toi que nous remettons les uns les autres, et surtout toutes ces familles, Seigneur, tu les bénis, tu les gardes, et merci pour tous ces intervenants. Que tu les aides aussi à passer ce cap, ces horreurs qui leur ont attendu leur nuit, et qu'ils puissent, Seigneur, aussi se tourner vers toi et t'appeler leur Dieu et te reconnaître comme vrai. Car c'est en toi qu'est la porte de la vie.
Amen. On sait, Seigneur, que notre président est chrétien. Il l'exprime d'ailleurs par ses couleurs. Et je te prie que sa foi puisse réjaillir sur les autres aussi, au niveau, pas seulement du gouvernement, mais aussi du Parlement, au niveau national, Seigneur. Merci encore, bénis cet homme, continue à le conduire dans ses fonctions et dans son témoignage. Merci encore.
Notre désarroi, notre sentiment d'impuissance, notre frustration, toutes nos émotions par rapport à des situations telles que celle-ci, par rapport à ce que ça fait résonner en nous de compassion, d'identification par rapport aux parents, aux familles, à tous ceux qui sont touchés. J'aimerais te remettre aussi tout ce qui va devoir être tenu sur le long terme. Avec ces blessures terribles, avec l'accompagnement, avec ces jeunes qui sont hospitalisés loin de chez eux, avec tout ce que ça représente de pouvoir les entourer. J'aimerais vraiment te remettre tout ce qui devrait être fait aujourd'hui et sur le monde. Des ressources qui sont des entourages qui apportent de la bienveillance, de la bonté, de l'amour. Et j'ai aussi à cœur un groupe de personnes qui sera confronté demain, les enseignants qui seront confrontés demain, à l'absence de nombreux élèves. Je demande de les entourer, de leur donner les mots et les attitudes bonnes et bien posées, adéquates pour accueillir ceux qui seront là avec l'absence de leurs parents. besoin. Tu sais, tu connais toi toutes les horreurs, tous les sentiments, bien mieux que nous. Et merci d'être notre relais pour transmettre le bien là où il est nécessaire.
Cher Seigneur, nous nous sommes adressés à toi avec toute la confiance dont tu es digne. Et ensemble, nous te recommandons toutes les personnes victimes de cette tragédie, en particulier les familles qui sont endeuillées, les personnes hospitalisées. Te prions d'envoyer de la vie là où la mort semble avoir pris le pas. Te prions pour les intervenants sur le terrain, ceux et celles qui aujourd'hui ont besoin de reprendre des forces. Te prions pour les soignants, les soignantes dans les hôpitaux. Renouvelle-les, renouvelle leur science, leur capacité à soigner. Prions effectivement pour les enseignants demain dans différentes écoles impactées d'une manière ou d'une autre. Merci de renouveler leur zèle et leur courage. Prions pour les autorités de Grand Montana, du Valais, les autorités judiciaires. Accorde-leur de la sagesse, de la suite dans les idées. Reviens les renouveler aussi. J'aimerais te prier aussi pour celles et ceux chez qui ce drame peut réveiller des souvenirs douloureux, réactiver certains circuits. Seigneur, s'il te plaît, viens déployer ta grâce. Et nous te sommes reconnaissants pour ta bonté, pour ta protection, pour ta fidélité. Nous te sommes reconnaissants de pouvoir te rendre un culte ce matin, nous adresser à toi, nous attendre à toi. Et c'est ce que nous voulons faire de toute notre foi, même si elle est petite et chancelante. Dans le nom de Jésus, amen. Deux précisions encore, ce vendredi, donc le 9, une journée spéciale est prévue au niveau du pays tout entier, et puis on a reçu ce matin un petit mot de la mairie nous demandant si on pouvait sonner nos cloches à 14h. Raymond, Denise, si vous êtes là vendredi éventuellement. Et puis peut-être, si vous entendez les cloches sonner à 14h, l'occasion simplement de vous arrêter quelques instants et de poursuivre votre prière ensuite. Et la deuxième information, c'est que vendredi, nous avons la reprise du caté et du groupe de jeunes. Et je propose que la rencontre du groupe de jeunes soit aussi dédiée à cette situation, avoir un temps pour échanger, prier ensemble. Je leur communiquerai encore directement. Merci beaucoup à David et son équipe d'avoir fait preuve de souplesse, non seulement sur la durée maintenant, mais aussi sur le choix des chants. Il y a eu un travail de réflexion et merci de l'avoir conduit. Nous poursuivons notre culte.
Oui, je lève les yeux vers les montagnes de questions, les montagnes de tristesse, les montagnes de colère. Mais d'où me viendra le secours? Et combien de personnes se posent cette question aujourd'hui? D'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. C'est la Bible, c'est le psaume 121 qui nous écrit ces quelques lignes. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Eh bien, le secours, nous pouvons le dire avec foi, il vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ et chantons avec foi et confiance « Mon secours, il est en toi. Mon secours est en toi. » Soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu. Oh,
enfants vont pouvoir rejoindre leur groupe. Je vais prier rapidement pour eux et leur moniteur monitrice. Seigneur, je te remercie pour les enfants qu'on a dans cette église. Je te remercie pour ce temps qu'ils peuvent avoir, qui est prévu pour elles et eux. Et je te remets leurs moniteurs et monitrices aujourd'hui qui puissent les accompagner pendant ce moment. Au nom de Jésus, amen.
Amen.
Les enfants, vous pouvez descendre. Nous allons avoir, après la prédication, comme d'habitude, un petit temps de Slido que j'annonce maintenant. Pour rappel, vous pouvez inscrire directement ce code et puis nous répondrons dans la mesure du possible. Philippe répondra dans la mesure du possible aux différentes questions après la prédication. Je lis dans Luc 13, 1 à 9. En ce temps-là, quelques personnes vinrent raconter à Jésus comment Pilate avait fait tuer des Galiléens au moment où il offrait des sacrifices à Dieu. Jésus leur répondit : Pensez-vous que si ces Galiléens ont été ainsi massacrés, cela signifie qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens ? Non, vous dis-je, mais si vous ne changez pas de vie, vous mourrez tous comme eux. Et ces 18 personnes que la tour de Siloé a écrasées en s'écroulant, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, vous dis-je, mais si vous ne changez pas de vie, vous mourrez tous comme eux. Et Jésus disait cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher des figues, mais n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron, « Regarde, depuis 3 ans je viens chercher des figues sur ce figuier, et j'en le trouve pas. Coupe-le donc, pourquoi occupe-t-il du terrain inutilement ?» Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le cette année encore. Je creuserai la terre tout autour, et j'y mettrai du fumier. Ainsi, il donnera peut-être des figues l'année prochaine. Sinon, tu le feras couper. »
Trois petites histoires qui nous placent, mine de rien, devant la question du mal, d'une manière très concrète. Dans un premier temps, la question du mal subit à grande échelle. Le sang des Galiléens qui coule. Puis des habitants de Jérusalem qui meurent sous la chute d'une tour. Et cela ressemble furieusement aux catastrophes dont sont familiers celles et ceux qui consultent les médias. Cela ressemble au drame auquel nous sommes confrontés et qui peuvent éveiller chez nous bien des questionnements. Dans les histoires qui nous sont racontées dans ce récit d'évangile, à chaque fois, la main de l'homme apparaît d'une manière ou d'une autre. Il n'est pas question ici de catastrophe naturelle au sens strict du terme, comme le tsunami en 2004 en Asie du Sud-Est, comme l'effondrement du glacier de Blatten. Ça, ce sont des catastrophes naturelles. Mais ici, dans un cas, c'est un crime qui a été perpétré. Le sang des Galiléens a été mêlé au sang utilisé pour les sacrifices. Nous sommes devant un acte délibéré qui qui peut ressembler à ces attentats, à ces génocides, à ces pogroms auxquels l'histoire et l'actualité récente nous ont malheureusement habitués. Mais cela peut aussi nous faire penser à la moins grande histoire, à nos propres histoires. Quand nous avons blessé quelqu'un, pas forcément physiquement, mais en le maltraitant, avec des mots durs, des attitudes agressives, mêler le sang des Galiléens à celui des sacrifices, ce peut être noyer quelqu'un dans un océan de reproches, pas forcément justifiés. Ce peut être l'accabler de nos colères, parfois irrationnelles, de nos exigences disproportionnées, de nos harcèlements en tout genre. Parfois justifiés même par des questions religieuses. Là, le sang des Galiléens est mêlé au sang des sacrifices. Un mal commis en lien avec la foi. Il n'y a pas que dans la grande histoire que nous trouvons des drames. Les histoires familiales, les histoires amicales, personnelles, parfois même les histoires d'église, sont parsemées, elles aussi, de violences ordinaires qui vont de l'irrespect au crime, de l'impolitesse au délit. Il y a de nombreuses situations de souffrance causées par l'intention d'une personne ou d'un groupe de personnes. Ce n'est pas du mal absurde comme le tsunami de 2004, mais c'est plutôt le degré zéro du mal. Le mal voulu, le mal délibéré, le mal qui aurait pu être évité si seulement nous nous en étions abstenus, si nous lui avions opposé un peu de résistance. Le mal volontaire. Le mal involontaire ensuite. Parce que dans l'autre cas, le cas de la tour de Siloé, ce sont les limites de la technique développée par le génie humain qui ont été atteintes. Et dans ce cas, le mal commis est plutôt un acte involontaire. Le mal vient de ce que nous ne mesurons pas assez bien les conséquences de nos actes, de nos choix. Ce sont des négligences. Le mal vient de notre inconscience du danger et des réactions en chaîne que certaines de nos décisions peuvent provoquer. Cette tour qui tombe sur les habitants de Jérusalem, elle ressemble autant au pont Morandi qui s'est effondré en Italie qu'à ce dramatique incendie à Crans-Montana au matin du 1er janvier. Ce sont des tragédies involontaires qui frappent aveuglément, sans distinction. Cette tour qui tombe sur des habitants de Jérusalem, elle ressemble aussi à toutes les conséquences dues au progrès technique qui peuvent rendre de grands services et provoquer en même temps d'énormes catastrophes. Il est facile de se souvenir des incidents dans des centrales nucléaires ou de l'accident de car à Sierre en 2012 qui avait coûté la vie à 22 enfants belges. Il ne s'agit pas de catastrophes naturelles parce que l'homme n'est pas tout à fait innocent dans ces situations. Et pour autant, ce ne sont pas des situations où il y a eu une volonté délibérée de nuire, de faire du mal, de tuer.
Dans le cas de la tour de Siloé, on ne sait pas si c'est un manque de surveillance, une pièce défectueuse ou un coup de vent violent qui a été à l'origine de la chute. Mais s'il n'y avait pas eu de tour, il est certain qu'il n'y aurait pas eu tous ces morts. Maintenant, ces deux premières histoires, elles ne mettent pas encore le projecteur sur le caractère ambivalent du progrès et de la technique qui peuvent nous apporter le meilleur comme le pire. Il s'agit pour Jésus de mettre en évidence deux manières d'envisager le mal, commis et subi, deux manières qui trouvent un même dénouement dans la bouche de Jésus. Si vous ne changez pas de vie, vous mourrez tous comme eux. Verset 3 et verset 5. Et je trouve ça quand même un peu fort en café. Choquant. Pourquoi devrions-nous périr comme ces malheureux si nous n'opérons pas un changement de vie ? À la limite, si quelqu'un devait mourir, on s'attendrait plutôt à ce que ce soit les coupables. Ceux qui sont à l'origine du mal. Le mal volontaire ou le mal involontaire. Qu'il soit puni. Mais Jésus ici, il ne parle pas des fauteurs de troubles. Il nous associe aux victimes en nous avertissant que nous mourrons comme ces malheureux si nous ne changeons pas de vie ou si nous ne nous repentons pas dans certaines traditions. Traduction. Cela signifie-t-il que Dieu ferait mourir celui qui ne change pas de vie, qui ne se repent pas? Et se repentir de quoi, au juste? Qu'est-ce qui, chez nous, pourrait bien justifier notre condamnation sans possibilité d'appel? Il faut observer ici le texte, cet appel au changement de vie. On pense souvent la repentance en termes de volte-face, de demi-tour, de la conversion qui nous fait prendre un virage à 180 degrés. Vous savez, quelque chose de radical, d'immédiat, quelque chose qui est fait dans l'instant. Mais ici, le texte grec ne nous parle pas de ça. Et il faut l'honorer, ce texte, parce que c'est dans la bouche de Jésus. Jésus utilise le mot « métanoïa ». Alors, nos traducteurs, ils ont un peu de peine. Ils vont dire « ça veut dire repentance », »,« ça veut dire changer de vie ». Ils interprètent. Mais Jésus ne dit pas ça. Jésus utilise, et volontairement, parce qu'il aurait eu la possibilité d'utiliser d'autres termes, mais il utilise le mot « métanoïa ». Méta, ce qui vient après, noia, l'intelligence. Il parle ici, Jésus, d'une réorientation intérieure radicale. Ici au moins, la repentance dans ce texte, ce n'est pas nourrir des regrets. Ce n'est pas changer de comportement, d'attitude. C'est plutôt approfondir sa connaissance des choses, des situations. Approfondir son regard sur la vie, sur l'humanité, sur notre rapport à Dieu. On pourrait parler aujourd'hui de déconstruction, de reconstruction. C'est reprendre les éléments, c'est ouvrir la réflexion. La métanoïa que demande Jésus, elle consiste à avoir un regard plus pénétrant, un regard qui ne se tient pas à la surface des choses, qui permet de penser au-delà des apparences. Ça, c'est la plus fidèle traduction de métanoïa. C'est penser au-delà des apparences. Est-ce que vous pensez que des victimes d'un malheur l'ont bien cherché et qu'elles méritent ce qu'elles ont eu? Si c'est le cas, si vous pensez ça, quand je pense ça, votre esprit est fermé à l'esprit de Dieu. Il va vous mener dans une étroitesse de vie qui peu à peu va vous étouffer, vous asphyxier et vous fera courir à votre perte. Vous pensez que Dieu condamne à mort comme cela et qu'il se sert des hommes pour punir d'autres hommes? Si c'est ce que vous pensez, me semble dire Jésus, eh bien vous prononcez votre propre condamnation. Car cela signifie que vous êtes prêt à accepter l'injustice pour les autres et que rien n'empêchera que l'injustice vous frappe le moment venu. Cette leçon d'évangile nous apprend à nous, à travers la figure enseignante du Christ, que Dieu n'est pas du côté du juge qui condamne, mais du Père qui éduque ses enfants pour les faire accéder à une meilleure conscience de ce qu'est la vie. Disons-le autrement. Dieu est celui qui nous appelle à la vie, la belle et la grande vie. Il est celui qui nous fait sortir de nos petites vies, de nos petites pensées, de nos petits conforts, de nos petites certitudes. Celui qui nous libère de toutes nos étroitesses d'esprit et de tous nos enfermements, pour nous ouvrir à son projet pour la création tout entière. Ne pas répondre à cet appel, ne pas voir ce que Dieu nous propose, c'est porter sur nous-mêmes notre propre condamnation. C'est se condamner à une vie sous-dimensionnée, en sous-régime. Se fermer à Dieu, c'est s'ouvrir à une peine capitale que nous nous infligeons nous-mêmes en refusant les formes de bonheur auxquelles Dieu nous convie. C'est la raison pour laquelle la repentance en termes de métanoïa, en termes d'intelligence approfondie grâce à Dieu, nous sauve du péril que Jésus révèle dans ce texte. Souffrir, être étriqué dans sa vie, sans bien savoir pourquoi, sans rien y comprendre en fait, à la manière de ces victimes qui n'ont rien vu venir et sur qui tout s'écroule. S'ouvrir à ces possibilités que Dieu nous offre, c'est justement le sens de la troisième histoire que Jésus raconte, parce qu'il faut prendre le passage en entier. Cette troisième histoire, c'est celle du figuier qui ne produit pas de fruits. Un figuier, c'est fait pour produire des figues. Et s'il ne le fait pas, eh ben, il est inutile. Sert à rien. Cette fois, donc, ce n'est pas par ses actes qu'on peut mal agir, mais par son absence d'actes. L'abstention dans la vie ne vaut pas forcément mieux que l'action mauvaise. Ne rien faire, ne rien dire, ne pas réagir face à une injustice, c'est une autre forme de mal. Ne pas réagir face au malheur. Ne pas aimer, ne pas servir, ne pas compatir, ne pas prendre soin de l'autre. C'est une manière de faire le mal. par abstention. L'abstention peut être une forme de mal. Toujours est-il donc qu'un arbre improductif, on peut être tenté de le couper et même de le brûler. C'est d'ailleurs le sort que l'on réservait aux personnes qui ne faisaient pas ce qu'il faut, comme nous l'apprend l'Ancien Testament. On les coupait du peuple, littéralement. On les retranchait. C'est quoi la justice de Dieu en la matière? Est-ce de couper court? Est-ce de mettre à mort, de punir? Dans ce passage biblique, il est plutôt question d'un évangile de l'autre chance. Une chance de plus pour échapper à un échec. Une chance de plus pour se sortir d'une mauvaise passe. Une chance de plus pour changer sa vie, pour l'améliorer, pour la rendre utile, pour la rendre plus belle, plus fructueuse, plus pertinente. Cet évangile de l'autre chance nous sensibilise au fait qu'il y a de la place dans notre histoire pour évoluer, pour changer quand c'est nécessaire, pour nous ouvrir à un autre horizon, pour aller dans le concret de la vie quotidienne. On pourrait penser à l'exemple de la scolarité. Que faire de ces élèves qui ont mauvais résultat sur mauvais résultat? Est-ce qu'il faut les sortir du système éducatif? Est-ce qu'il faut leur dire qu'ils ne réussiront jamais leur vie? Qu'ils seront toujours des inadaptés? Faut-il couper court à toutes les espérances qu'ils peuvent nourrir? Alors disons, non, c'est perdu pour toi. Moi, je lis dans ce passage d'évangile un encouragement à prodiguer, au contraire, des soins particuliers pour ces élèves-là et à développer une patience et une ténacité supérieure, parce que l'échec n'est jamais une fatalité. Et en sortant de la seule approche scolaire, je veux redire ce matin, dans ce premier culte de l'année nouvelle, qu'il y a toujours de la place pour transformer des situations. Celles qui nous semblent désespérées, celles qui nous semblent perdues d'avance, c'est l'évangile de l'autre chance. Nous avons un Dieu des secondes chances. Il me faut conclure. Là où nous pourrions penser qu'il est juste de faire payer quelqu'un pour ses fautes, pour ses maladresses, pour ses absences, l'Évangile nous présente l'action de Dieu comme un excès par rapport à la justice. Dieu fait sauter les codes. Là où la justice résonne en termes d'équivalence ou en termes d'un prêté pour un rendu, la grâce divine résonne en termes d'excès, de surabondance, de transformation, de fidélité absolue. La grâce de Dieu, elle nous tient. Elle nous tient. Et cet évangile-là, il nous responsabilise. Où en suis-je, moi, si je ne veux pas mourir comme eux? Cet évangile, il nous apprend que Dieu n'est pas du côté de ceux qui se retranchent, qui se replient, mais du côté de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, même de façon très simple, embellissent les choses, qui ajoutent de la vie à la vie, qui mettent du fumier autour du figuier, en particulier quand la vie est menacée. Dieu est du côté de ceux et celles qui sont touchés, mais pas coulés, et qui se battent pour mettre du sens et de la beauté où rien ne semble avoir de sens et tout semble laid. Dieu n'est pas du côté de ceux qui se résignent, qui coupent court à toute espérance, mais il est du côté de ceux et de celles qui ajoutent de l'espérance à l'espérance, en particulier lorsque tout semble perdu d'avance. C'est l'évangile des autres chances. Puissions-nous être de ce côté-là de l'existence. Amen. Je vous invite à entonner un chant après quelques instants de réflexion. Et puis, si vous le souhaitez, on peut passer un petit moment autour de cela.
Chantons ensemble, si vous le voulez bien. Jésus, je te suivrai.
De le faire. Hein. Une question. Hérode est-il un figuier qui peut être soigné ? Ben de ce côté-ci de l'histoire, avec la lecture après coup, que l'histoire et les évangiles en font, non. Ben maintenant, en tout cas, voilà. Pour Hérode et ses décisions malheureuses, dramatiques, profondément injustes, c'est cuit. Et si vous lisez un petit peu des livres d'histoire, en particulier ceux de Flavius Joseph, vous vous apercevrez qu'Hérode était, comme d'autres dirigeants, un grand malade, qui a fait le vide autour de lui, dans sa propre famille, qui a commander le meurtre de ses propres enfants, etc., etc. Pas un personnage recommandable. Mais était-il un bon figuier à la base ? Aurait-il pu faire autrement ? Ça, c'est la vraie question. C'est pas la fin de l'histoire qui m'intéresse, c'est le début. Je suis convaincu qu'Hérode, comme tant d'autres qui ont fait de mauvais choix, comme moi dans ma vie, si je prends le temps de laisser affluer la grâce de Dieu, il y a des destins, des destinées qui peuvent changer. L'histoire peut être écrite autrement qu'elle ne semblait devoir être écrite. Pour Hérode, c'est cuit. Et j'aimerais pas être dans ses baskets aujourd'hui, dans ses sandales. Pour nous, ça n'est pas encore. Parce qu'on est là, parce que c'est un jour de grâce, parce qu'on a privilège de la foi, de pouvoir échanger. Hérode, Judas, tant d'autres pointent mes responsabilités à moi. Est-ce que je vais être lâche ? Est-ce que je vais écouter mes plus bas instincts ? Ou est-ce qu'il y a des choses dans ma vie, à moi, qui peuvent changer ? Est-ce que j'accepte que Dieu mette du fumier autour de mes racines pour que des choses changent ? Moi, j'y crois. Je crois à l'évangile des secondes chances. Parce que Dieu est comme ça. Et je vous encourage à persévérer dans notre réflexion, dans nos élans. Peut-être vous avez envie d'en parler. Votre pasteur, votre conseil, l'équipe pastorale, on est là, on est à disposition. Si vous avez envie d'en parler, de marquer le coup, ou si le drame que nous avons évoqué suscite chez vous, chez vos enfants, chez vos jeunes, des questions qui vous dépassent, on est là pour faire un bout de route ensemble, hein. C'est ça aussi l'Église, c'est pas juste l'Église du dimanche matin entre 10 et 11h12. C'est beaucoup plus que ça. Faisons la route ensemble, aujourd'hui, demain, pendant l'année qui vient. Moi, je me réjouis de voir les quantités de fumier dont le Seigneur aura besoin pour nous permettre de prendre racine et de donner plein de bons fruits.
Nous allons passer un temps d'annonce pendant lequel on va aussi pouvoir passer l'offrande. J'aurai besoin, si possible, de 3 personnes pour m'aider à passer les paniers. Merci. Trois petites annonces pour commencer 2026. Mardi soir à 20h, il y a l'atelier biblique avec pour thème « Jésus change-t-il l'image de Dieu ?». Il y a également une semaine universelle de prière qui commence, si je ne m'abuse, le 12 janvier, avec pour thème « Dieu est fidèle ». Il y a des flyers, comme ça, à disposition dans le foyer, et également des petits livrets pour vous accompagner pendant la semaine de prière. Voilà. Dernière annonce, dimanche prochain, nous aurons un culte spécialement pour la présentation de Noah Dubois. Je vous laisse vous lever si vous le pouvez pour la bénédiction pour conclure ce culte. Je lis dans 2 Corinthiens 5, 17 à 19. Ainsi, si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle création. Ce qui est ancien a disparu. Une réalité nouvelle est là. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'en amener d'autres à la réconciliation avec lui. En effet, par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier le monde avec lui, sans tenir compte des fautes des humains. Et il nous a établis pour annoncer cette œuvre de réconciliation. Bon dimanche à chacun, chacune.
Merci, Elliot.
Merci.